Le face à Duhamel avec ce soir pour nous accompagner Alain Duhamel, bien sûr. Bonsoir, mon cher Alain.
Bonsoir.
Et puis nous sommes avec l'éditorialiste Catherine Ney. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir.
Un mot, tiens, tous les deux quand même sur ce panier anti-inflation avec le logo du gouvernement. Vous en pensez quoi, là, le trimestre anti-inflation, Alain Duhamel?
Bon, je pense que si on essaye de rapprocher l'inflation d'un côté et d'un autre côté les manifestations, je pense que l'inflation, pendant la première semaine, c'est une aide à la mobilisation, parce que c'est une colère qu'on ajoute à une colère, et qu'à partir de la deuxième semaine, c'est plutôt un handicap pour la mobilisation.
Catherine, gadget ?
En partie, mais que faire ? En fait, c'est très, très...
Est-ce que vous restez, avez changé d'enseigne, oui. Vous allez chez Leclerc, Carrefour, Catherine, en fonction
vous regarderez le logo ?
Écoutez, franchement, non, parce que j'ai pas une famille nombreuse et que voilà, quand je vais faire mes cours, je vais chez l'épicier du coin parce que je trouve qu'il faut le faire. Au contraire,
faut faire travailler.
Que c'est citoyen de faire travailler le commerce de proximité.
Alors, venons-en à ce qui nous intéresse. Nous sommes à la veille d'une journée de mobilisation que les syndicats annoncent comme pouvant être sans précédent. Peut-être reconductible, on sait déjà qu'il va y avoir des perturbations mercredi y compris. Bon, enfin, on verra, on fera le bilan. L'objectif, c'est donc de mettre le gouvernement dans les cordes. Mais ce gouvernement, Alain Duhamel, peut-il encore reculer?
Je crois qu'il est trop affaibli pour reculer. C'est-à-dire qu'il a perdu la première manche, la bataille de l'opinion, et de façon lourde. Bon, il faut bien dire les choses, en bonne partie de sa faute. La deuxième partie, ça va être se jouer... sur le plan législatif, il espère que ça passera. On en est moins sûr qu'on ne l'était, parce qu'il y a maintenant l'insoumis numéro 1, c'est-à-dire Aurélien Pradier, qui quand même complique les choses pour le vote. Et puis ensuite, il y aura la troisième étape. Ça sera non pas cette semaine, mais à la fin de la semaine suivante, la troisième étape, qui sera pour le coup la bataille de la résilience. Et c'est là où on retrouve la question de l'inflation et puis des gènes pratiques, qui gardent les enfants, est-ce qu'on a des difficultés à avoir de l'essence, etc. Bon, ils espèrent gagner. C'est un énorme enjeu. Hein. C'est un énorme enjeu d'abord pour les Français, évidemment, mais pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, s'ils perdent cette réforme-là, bah, en gros, le quinquennat est fini. Et ensuite, ils n'auront plus de marge ni même de crédit pour essayer de faire autre chose.
C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas perdre parce que la loi, je pense, sera votée. Je ne sais pas ce que les sénateurs vont rajouter. Mais il ne va pas perdre, mais il ne va pas gagner. Et il ne va pas gagner parce qu'il a eu une communication absolument désastreuse. Parce qu'entre le Macron de le premier quinquennat qui disait « mais jamais sur l'âge », comme si c'était ridicule, et d'avoir voulu faire une réforme à point que voulait la CFDT, que les autres syndicats ne voulaient pas, et quitter une usine à gaz, comme tout ce que fait la CFDT. Et donc, on a reculé, et le président a changé de pas, et a dit vouloir la retraite à 65 ans, qui est devenue à 64 ans. Mais surtout, je crois que les Français n'ont pas su ce qu'ils voulaient faire. Parce que lorsque Madame Borne a fait dire que vraiment, il n'y aurait pas une retraite à moins de 1 200 €, là, moi, j'avais trouvé que c'était la réforme, parce qu'elle coûtait cher, mais géniale, parce que tous ces gens qui ont une petite retraite et qui ont des difficultés pour vivre aujourd'hui, ça leur a donné un espoir, et puis un espoir qui a été quand même douché. Ouais. Et ça a été quand même très, 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 très mal engagé. Et puis, je trouve que le ministre qui s'est battu et qui dit aujourd'hui qu'il a fait une réforme de gauche.
Olivier Dussopt,
une réforme de gauche, alors qu'il a besoin du Sénat de droite. D'ailleurs, Retailleau lui a dit « mais écoutez, non, c'est une réforme de droite et que c'est une réforme de droite ». Moi, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, parce que, évidemment, je crois qu'il parlait de lui. Il dit « moi, je suis un homme de gauche qui peut faire voter cette réforme ». Et puis dire encore que peut-être que... on n'aura pas l'équilibre en 2030, qu'il peut y avoir un déficit, alors que si on fait cette réforme...
Donc à quoi ça sert, oui.
À quoi ça sert? Donc tout ça a fait que le gouvernement aurait été mauvais dans sa communication et que pour la suite, on n'aura pas confiance en lui pour les autres réformes qu'il pourrait proposer.
Donc pour Catherine,
proposer.
Alain, finalement, quelle que soit l'issue de ce mois de mars, Emmanuel Macron est le perdant. Vous êtes d'accord avec ça?
En tout cas, il n'est pas le vainqueur, ça c'est sûr. Et il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être puisque c'est une réforme qui est, j'allais dire, monstrueusement impopulaire. c'est peut-être la réforme la plus impopulaire depuis 10 ans. Bon, donc, évidemment, il ne peut pas être vainqueur d'une impopularité. Là où je ne suis pas d'accord avec Catherine, c'est en ce qui concerne la CFDT et la réforme à points. Je reconnais qu'elle était extrêmement difficile à mettre en œuvre, je ne dis pas le contraire. Mais d'une part, elle était imaginative, elle était égalitaire, elle était... En plus, elle responsabilisait les gens, chacun devait choisir. Puis il y a surtout quelque chose que d'ailleurs je m'étonne, on n'est pas plus mis en exergue, qui est le fait qu'elle s'applique déjà pour les réformes, les retraites complémentaires qui fonctionnent très bien. Donc ce n'est pas de l'utopie, ça existe déjà en France. Et tous ceux qui ont des retraites complémentaires, ben, il y en a beaucoup, le savent bien. Pour le reste, c'est pour Emmanuel Macron... Je veux dire, et il a à choisir à l'issue de cette réforme entre le mauvais et le pire. Le mauvais, si ça passe, mais ça passe en laissant une trace d'impopularité énorme, ou le pire, si ça passe pas.
Mmh. On est en train de gérer l'après-Mitterrand. Hein, je veux dire, c'est un legs de François Mitterrand qui a fait cette réforme à 60 ans, dont Hubert Védrine disait hier que ça a été une très mauvaise réforme parce qu'elle a été faite à contre-cycle, au moment où l'espérance de vie augmentait.
Je ne suis pas sûr que Hubert Védrine, lorsqu'il était dans les cabinets ministériels socialistes, l'ait beaucoup dit à l'époque.
Ben, on ne le disait pas parce qu'on n'osait pas dire quoi que ce soit contre Mitterrand qui venait de vous amener au pouvoir. Mais beaucoup d'économistes de gauche le disent. D'ailleurs, on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas le travail des seniors et quand même très bas en France. Mais il faut dire que quand on est passé à la retraite à 60 ans, donc comme on était vieux à 60 ans, ça a enclenché des pré-retraites à 55 ans. Et finalement, l'État, les entreprises aussi étaient très contentes.
Que les entreprises ont joué beaucoup.
Beaucoup.
On les a même encouragés.
Il y avait des politiques d'entreprise.
Mais ce qui ne plaisait pas aux salariés, mais ça les habituait à avoir des retraites longues et ça a été très mauvais pour la France, en tous les cas pour le pays. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce retard d'actifs âgés. Enfin, à plus de 60 ans. Et puis, de toute façon, une réforme des retraites, c'est le précipiter de toutes les injustices. Parce que l'intérêt général, qui est de faire la réforme, n'est pas la somme des intérêts particuliers. Et chaque cas en France est un cas particulier, selon que vous avez eu un travail imposé, choisi, bien payé, mal payé, avec des arrêts pour des grossesses, avec des arrêts pour des maladies. On regarde toujours ce qu'a le voisin, d'ailleurs qui ne dit pas combien il a. Il y a toujours la suspecte. Donc, c'est très difficile et c'est une machine à créer des jalousies et du malaise.
Mais aucun d'entre vous n'envisage l'abandon de cette réforme. En fonction de ce qui va se passer à partir de demain.
Il y aurait l'abandon si, d'abord, l'Assemblée refusait de la voter, et si ensuite, il y avait une motion de censure qui passait. On entendait tout à l'heure un député LR qui disait que lui, il la voterait. Bon, donc dans ce cas-là, évidemment, il y aurait abandon.
Oui, mais la rue a déjà fait plier des gouvernements dans l'histoire de la Ve République.
Oui, c'est arrivé. Disons que si on reprend, ce que je ne vais pas faire, rassurez-vous, si on reprend l'histoire des grandes manifestations, la plupart n'ont pas fait plier. Hein, ça a été rare. Mais c'est possible, on ne peut pas dire...
Il n'y a que pour le CPE.
Mais il y a des exemples. Mais enfin, si on prend la liste des grandes manifestations, la plupart n'ont pas fait plier. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas... Un facteur nouveau qui apparaisse demain ou la semaine prochaine. Un facteur nouveau, ça peut être un accès de violence venant de part ou d'autre, mais à ce moment-là,
Mélenchon ne peut pas attiser aujourd'hui justement ce rejet et faire en sorte qu'on suive le nom à Macron.
Il y a deux choses, il y a le rejet et il y a la violence. Ouais. Le rejet, c'est la loi s'ils le veulent, c'est un droit, on a le droit de rejeter un président. La violence, c'est autre chose. Et puis, il peut y avoir, Catherine en citait un exemple, mais il y en a d'autres, enfin j'abonde là, il suffit aussi qu'il y ait une maladresse d'expression gouvernementale au mauvais moment qui brusquement soit une catastrophe. Et c'est vrai que de dire c'est une réforme de gauche alors que c'est de toute évidence pas une réforme de gauche. Bon, ça c'est personne ne peut dire que ce soit sincèrement une réforme de gauche.
Catherine Ney.
Oui, Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, c'est quelqu'un qui veut montrer que dans cette mobilisation syndicale qui lui échappe, que finalement, il essaie de prendre le dessus, et comment avec la jeunesse. Il dit, lorsque la jeunesse est dans la rue, on fait reculer le pouvoir. Donc, il a mis le jeune Boyard, qu'il espère rallier les jeunes à sa cause, enfin, et avec des récompenses pour ceux qui bloqueront le plus.
Il approuve le blocus challenge qui a été lancé par Louis Boyard.
Non, mais c'est... il annonce à chaque fois que la réforme, que la manif sera des choses qu'on n'a jamais vues. Il parle toujours au superlatif de tout. On verra bien. En tous les cas, c'est pas lui qui est le dieu horloger de cette manif. Est-ce qu'il fait peur? J'en sais rien. Est-ce que les jeunes vont sortir? Bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'on peut on peut sécher les cours, ils l'ont fait dans le passé. Mais combien de temps ça va durer? Est-ce que ça sera comme... Parce qu'ils ne sont pas quand même... Le CPE les concernait directement, tandis que la retraite qui sera pour eux dans 40 ou 50 ans...
Mais la France à genoux, vous n'y croyez pas, quoi, finalement?
Je ne sais pas. Moi, jusqu'ici, comme les réformes, il n'y a pas eu de Black Bloc qui ont tout cassé, qui ont tout brûlé, qui ont tout...
C'est la question de la violence.
Attends, c'est terrible ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait de la violence dans la rue pour que le gouvernement cède. D'ailleurs, les Gilets jaunes, il y a eu de la violence et le gouvernement a cédé puisqu'on a abandonné la taxe carbone. Donc en fait, c'est quand même très dangereux ce jeu-là que vous êtes en train de dire. Quand ça se passe bien, Emmanuel Macron peut être en disant, on va dire, vous voyez, j'ai tenu bon, mais si ça se passait mal dans la rue, il serait obligé de céder, c'est ça?
Non, il cédera pas. Il ne cédera pas. Il ne peut pas.
Je crois que
c'est très dangereux.
Mais bien sûr que c'est une situation qui est dangereuse. C'est d'ailleurs.
Non, mais ça peut inciter certains à être violents, c'est ça que je veux dire.
Non, mais bien sûr. Il y a un risque. Bah, de toute façon,
en disant, finalement, il n'y a que ça qui frappe.
Il y a un risque de violence, il y a un risque de surenchère, il y a un risque de radicalité. C'est vrai qu'il existe. Ça ne veut pas dire qu'il se produira, parce que par exemple, la CFDT que Catherine n'aime pas, un des grands thèmes de Laurent Berger, il l'a encore redit ce matin. C'est que il tient absolument à ce que ce soit des manifestations paisibles, ordonnées, et le contraire des affrontements physiques. Mais ça, je veux dire, on peut faire ce qu'on peut pour ça, mais on ne peut pas le décréter, et encore moins en donner l'assurance. Personne ne peut en donner l'assurance.
Catherine.
Oui, mais Laurent Berger, est-ce qu'il est libre de ses paroles quand il est en réunion singulière avec des ministres, il sait bien qu'il faut faire une réforme. Alors, c'était pas celle de son choix. Mais son attitude est complètement dictée par ses adhérents. Il y a eu un congrès en juillet, par la base, qui lui a dit.
En juin dernier, qui est plus dur que lui,
qui a dit pas question de passer de 62 à 64 ans, et pas question non plus de jouer sur les
trimestres de cotisation.
Les trimestres de cotisation. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de jouer son rôle. Mais toi, moi, je dis toujours qu'il est un berger qui est sur le troupeau et c'est pas lui qui le guide. Il fait ce qu'il peut, quoi. Parce qu'il a, vous savez, à la CFDT, on a un souvenir très, 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 qui a marqué, c'est François Chérec. En 2003, il a été négocié avec Raffarin pour les carrières longues. Il croyait être reçu vraiment avec des applaudissements. Eh bien, ses adhérents sont partis à Sud et tout ça. Et le Parti Socialiste l'avait puni à son congrès en invitant Bernard Thibault de la CGT. Donc, depuis, la CFDT marche sur des œufs.
Oui. Est-ce que Elisabeth Borne fait bien le job?
J'en sais rien.
Ah bon? Ça vous laisse complètement indifférent ce qu'elle fait, là, alors?
Mais parce que je trouve que ce n'est pas une oratrice. Non, je pense qu'elle est solide, elle est là. J'ai pas vraiment une idée.
En fait, moi, je pense qu'elle joue un rôle important dans cette histoire ou pas?
Je pense que dans la conduite, disons, depuis l'automne dernier, elle a plutôt eu des intuitions intelligentes. On a senti qu'il y avait deux thèses. Qu'il y avait une thèse Élysée, Emmanuel Macron, qui était en simplifiant une thèse dure, et une thèse d'Elisabeth Borne, qui était plus d'essayer de trouver des accommodements, de gagner du temps. C'est elle qui a décidé qu'il fallait un mois et demi de plus, qu'il fallait donner des garanties, qui aujourd'hui considère qu'il faut encore, si besoin, faire quelque chose. Donc, disons qu'il y a eu une ligne dure, une ligne souple, qu'elle était la ligne souple, et je pense que c'est elle qui avait raison, du point de vue de ce camp-là, évidemment.
Oui, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, il avait d'un côté François Bayrou qui lui disait qu'il fallait attendre l'été pour faire passer la réforme, qu'il fallait dialoguer. Alors, dialoguer sur quoi? Puisque les syndicats sont contre et que le gouvernement est pour, je ne sais pas, ce n'est pas la peine. Donc, le dialogue...
Et que le patronat n'est pas très partant.
N'est pas très partant. Donc, pourquoi? Et alors, Elisabeth Borne disait qu'il fallait attendre fin janvier, enfin, ce qui se passe, février. Et donc, le président avait réuni tout le monde à dîner pour dire... pour dire à François Bayrou qui a dit que ça serait l'été, eh bien non, ça serait voté à la fin du printemps. Voilà, on a choisi le printemps, donc ça devrait être voté avant le printemps qui est le 21 mars.
Merci Alain Duhamel, merci Catherine.